Bonjour, mais nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir Yolanda Martín-González de l'Université de Salamanque, qui est venue ici d'une part dans le cadre d'un séjour et d'une mobilité internationale Erasmus, et d'autre part qui intervient là dans le cadre de notre cycle de conférences bibliothèque internationale. Voilà, mais je vous laisse la parole. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Yolanda Martin. Je vais vous parler dans cette présentation des les portails Open Data, un outil d'accès et récupération des données publiques ouvertes. Tout d'abord, j'aimerais bien me présenter. Je viens de l'Université de Salamanca, à l'Espagne. C'est l'université la plus ancienne de notre pays, parce qu'il a été créé en 1218. Et aujourd'hui, il a accueilli à 26 000 étudiants qui sont inscrits à notre université. Nos études en information et documentation, et ils sont à la fac de traduction et documentation. Là, il se trouve le département de bibliothéconomie et documentation. Et nous pouvons nous contacter si vous voulez savoir quels sont notre programme d'études, notre convention avec des autres universités sur la page web, mais aussi vous pouvez nous trouver dans les réseaux sociaux à Facebook, Twitter et Instagram. Là, nous avons toute l'information sur les différentes activités que nous faisons à la fac à Salamanque. Dans les domaines de l'information, dans notre université, nous avons des différents diplômes. Et nous avons la licence en information et documentation, ça prend 4 ans après les baccalauréats. Après, nous avons les masters en système d'information numérique qui prend 4 ans. Et ensuite, on pourrait faire les doctorats en société de l'information, c'est un doctorat multidisciplinaire. Ce n'est pas exactement spécialisé en information et documentation, mais multidisciplinaire. En plus, nous avons aussi des double degrees. En fait, nous avons les double degrees avec la licence en administration publique et relations en sciences politiques. Un autre double degree en information et documentation et pédagogie. Un troisième double degree en information et documentation et éducation sociale. Et le dernier, c'est la double degree avec ingénierie des systèmes. En plus, nous avons des enseignements dans des autres licences, comme par exemple en criminologie, en communication audiovisuelle, aussi en licence en langue moderne et en administration publique et sciences politiques. Là, nous avons les programmes d'études que nous avons à Salamanca il y a 4 ans, comme je l'ai déjà dit. Les deux derniers ans, les étudiants peuvent choisir des matières optionnelles, telles que des documentations dans des masses médias, par exemple, ou de la conservation documentaire, par exemple. En plus, ils font les deux derniers mois en stage, plus la mémoire de sa licence. Par rapport à moi, les matières que j'enseigne à l'Université de Salamanca, par exemple dans la licence en information et documentation, ce sont la matière des sources d'information spécialisées et aussi la matière de transparence et accès à l'information. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous parler sur l'accès à l'information à travers les portails Open Data. En plus, dans la licence en criminologie, j'ai aussi un cours de ressources d'information en criminologie. Dans les masters, je donne un cours sur la sélection et évaluation des ressources d'information. Et finalement, dans les doctorats, je travaille sur le domaine Open Data, concrètement sur les politiques et aussi sur la récupération des données ouvertes à travers des outils documentaires, surtout des portails de données ouvertes. Par rapport à mes domaines de recherche, je travaille plutôt sur les open data, sur l'accès aux données ouvertes, mais parfois je travaille aussi sur l'information de l'Union européenne, Et je compte sur des différentes publications sur ce domaine-là et en plus sur la information literacy, parce qu'il est très lié aux matières que je donne ou que j'enseigne dans les licences par rapport à la source d'information spécialisée. Bon, aujourd'hui, je voudrais parler ces minutes-là sur les mouvements Open Data, les mouvements données ouvertes. Et tout d'abord, j'aimerais bien commencer pour expliquer un peu qu'est-ce que c'est l'Open Data. Bon, on va dire que l'Open Data s'inscrit dans l'écosystème open. Maintenant, nous sommes toujours en train d'écouter parler de Open Access. On entend aussi écouter parler de Open Science. Et à côté, on peut aussi travailler sur l'open data. C'est-à-dire, l'open access, c'est plutôt par rapport aux publications. Il faut ouvrir les publications qui font les chercheurs. L'open science, il faut ouvrir les données qu'utilisent les chercheurs pour faire de la recherche. Et l'open data, c'est situé un peu sur les secteurs publics, c'est-à-dire ce sont des autres données plutôt administratives ou par exemple dans les domaines des universités, ce sont des données académiques, plutôt sur l'inscription des étudiants et tout ça. Le mouvement Open Data, c'est en même temps une espèce de philosophie qui est créée dans les domaine d'une société qui est caractérisée pour les administrations en ligne, plutôt, pour des concepts comme la transparence, les droits d'accès à l'information et l'engagement citoyen, on parle toujours de participation citoyenne, mais aussi de bonne gouvernance, d'économie digitale, d'innovation, d'emploi. Il y a quelques ans que l'Union européenne, je veux dire à la fin des années 80, qui a commencé à parler de la valeur qu'avaient les données qui ont les administrations publiques. Et c'est toujours une valeur plutôt économique et pour la création d'emplois. Après, on a ajouté aussi le concept de transparence et accès à l'information. C'est-à-dire que l'Open Government Data, c'est en même temps l'addition de différents concepts. Par exemple, l'Open Government, c'est-à-dire c'est un gouvernement plus ouvert, c'est un gouvernement qui compte plus sur la citoyenneté. En plus, on parle de Data Government, c'est-à-dire les gouvernements créent beaucoup d'informations et en plus, ils reçoivent beaucoup d'informations et cette information, c'est une information de qualité. Et il y a un troisième mouvement que c'est le mouvement des données ouvertes. Alors, si on mélange tous les trois concepts, on pourra parler des données publiques ouvertes qui après, il peut être lié à travers les Linked Government Data. Dans ces présentations, je voudrais parler surtout sur la récupération des données ouvertes à travers la plateforme ou à travers les portails des données ouvertes. Mais j'ai fait dire quelques petits mots, très peu de mots, sur la réutilisation de l'information et la participation des citoyens dedans les portails ou les plateformes Open Data. En fait, l'ouverture des données publiques a un objectif principal que c'est la réutilisation d'informations. Il y a un secteur nouveau qui est créé à partir de l'ouverture de ces données-là qui s'appelle le secteur infomédiaire qui prend cette donnée ouverte, il les donne une valeur, il ajoute une valeur et il crée de nouveaux produits et services. Mais aussi la participation des citoyens, c'est très important pour l'ouverture des données. Mais quelles sont les données ouvertes? Bon, les données ouvertes, il doit avoir quelques caractéristiques, c'est-à-dire il doit être diffusé d'une manière structurée et selon une méthode et une licence ouverte et qu'elle garantit surtout les livres accès pour tous. En plus, ça doit être des données numériques. Sans l'administration en ligne, ça ne serait pas possible d'avoir ou de parler aujourd'hui des données ouvertes. Mais en plus, et à la fois un mouvement, c'est une espèce de philosophie, de nouvelle philosophie qui travaille sur l'accès à l'information, sur la transparence par rapport à l'accès aux documents et données des administrations publiques. Un des premiers pays qui a commencé à travailler pour avoir un gouvernement plus ouvert et en conséquence pour avoir des données ouverte, ça a été les États-Unis. Il y avait des autres pays, par exemple, comme le Royaume-Uni, qui avait déjà commencé à travailler dans ce sens. Mais en fait, ça a été Barack Obama, l'ex-président des États-Unis, qui en 2009 a fait les mémorandums sur la transparence et sur le gouvernement ouvert. Et il a parlé sur les trois piliers qui sont la base de la Open Government Data. C'est-à-dire, il a parlé tout d'abord de transparence, et après il a parlé de participation et finalement il a parlé de collaboration. C'est-à-dire, en premier cas, la désadministration doit être beaucoup plus transparente. Il doit donner d'accès à son information, à sa formation. Et il doit ouvrir les informations et les documents qu'il y a l'administration. Mais en plus, il y a quelques politiques, quelques décisions qu'il doit se faire avec la participation citoyenne. Et par exemple, il y a beaucoup de plateformes de données ouvertes qui permettent aux citoyens de dire quelles sont les données qu'ils veulent avoir. Qu'il voulait avoir. Et en plus, il doit se faire ces nouvelles politiques avec la collaboration active avec les institutions et aussi avec les citoyens. C'est-à-dire, on a fini déjà, au moins dans la théorie, la période dans laquelle l'administration c'était une institution obscure qui gardait secrètement et son information. Bien sûr, il y a toujours des documents, des données qui ne peuvent pas être ouvertes pour raison surtout de sécurité nationale ou surtout parce qu'il faut préserver les données personnelles des citoyens. Quels sont les principes, quelles sont les caractéristiques qui doivent avoir les données pour être ouvertes? Tout d'abord, l'information doit être complète, c'est-à-dire nous devons avoir les documents complets et pouvoir sortir ou pouvoir prendre de ces documents les différentes données. Et deuxièmement, les données doivent provenir directement de la source sans aucune modification, c'est-à-dire si c'est un document ou si c'est une information qui est créée par le ministère de l'Intérieur, ça doit être ce ministère qui doit déposer les documents dans les portails correspondants. En troisième, la publication des données doit se faire en temps. Si cette information-là n'est pas actuelle, elle perd toutes ses valeurs. Alors, personne ne va pas demander cette information-là. Ensuite, l'information doit être disponible pour le grand nombre d'utilisateurs et de missions possibles. En fait, on ne demande pas l'enregistrement pour consulter les données. Il faut les consulter librement sur les différentes plateformes. Les données doivent se présenter avec une structure précise qui permet son traitement automatisé. Et ça, c'est une des caractéristiques qui fait que, par exemple, les données qui ont les bibliothèques soient très bonnes pour les ouvrir. Parce que normalement, dans les domaines des bibliothèques, on travaille toujours avec la normalisation de l'information. Et ça, c'est une caractéristique qui fait que l'ouverture des données dans les domaines des bibliothèques, ça sera possible bientôt, il y a déjà des bibliothèques qui travaillent sur ces domaines-là, mais il y a très peu d'exemples pour le moment. Et en plus, l'édition doit être exempte de discrimination et accessible à tous, c'est-à-dire on ne va pas payer pour avoir ces données qui sont financées avec des budgets publics. C'est-à-dire la formation qu'il y a à l'administration publique a été financée pour les budgets publics ou pour les citoyens, alors on ne peut pas demander de payer en plus pour les savoir. Le format d'édition doit être libre, doit être ouvert, accessible et réutilisable. C'est très important ça. C'est-à-dire, ici, il y a une différence entre les portails de transparence et les portails de données ouvertes. Dans les portails de transparence, on trouve souvent des documents, par exemple, sur le format PDF. PDF, c'est un format qui ne permet pas de traiter librement les données. Même, par contre, les formats Excel, si, permet de traiter beaucoup mieux les données. Et dernièrement, l'information doit être libre d'utiliser, à savoir ne soumis aux droits d'auteur, les brevets, les marques ou les règlements des secrets commerciaux. C'est pour ça que les documents qui ont des données personnelles doivent enlever ces données parce que on ne peut pas avoir des données personnelles dans les portails de données ouvertes. Quels sont les intervenants dans les domaines de l'open data? Nous trouvons qu'il y a surtout trois acteurs actifs dans les données ouvertes. Il y a toujours les administrations publiques. Là, on peut entendre aussi les universités. Les universités publiques. Il y a en fait des universités, je mettrai dans quelques minutes, des portails de données ouvertes qui sont faits par des universités, par exemple. Mais on parle toujours des administrations publiques, des administrations, des institutions publiques. Ça, c'est, on peut dire, les secteurs producteurs. Ils sont des informations qui sont de qualité. Alors, il faut avoir, il faut ouvrir les données qu'ils sont. C'est toujours les États, les collectivités territoriales, les organismes de droit public, les associations, etc. En fait, il y a un deuxième intervenant qui est le secteur développeur. C'est un secteur tout nouveau qui a été créé à partir de l'ouverture des données. On l'appelle le secteur réutilisateur ou infomédiateur parce qu'ils sont... Les entreprises, surtout ce sont des petites et moyennes entreprises qui prennent les données et ils ajoutent une valeur sur ces données et ils créent des produits et des services nouveaux. Il y a beaucoup d'applications que nous avons sur les mobiles, ou, par exemple pour savoir quand est-ce qu'il va passer les prochains bus qu'ils ont créés à partir des données ouvertes. Et finalement, nous avons dans les secteurs utilisateurs aussi les citoyens. C'est vrai que les citoyens, pour le moment, ne connaissent pas beaucoup toute la philosophie des données ouvertes. C'est un objectif qui doit aboutir parce que... Il peut avoir beaucoup d'informations là, mais il ne connaît pas du tout qu'est-ce qu'il passe dans les portails des données ouvertes, même s'il suggère d'ouvrir des données statistiques, juridiques, culturelles, météorologiques, etc. Le plus important est que le mouvement Open Data il est très bien accueilli par les G8 qui en juin 2013 a signé la carte des données ouvertes en disant que il faut appuyer l'ouverture et la transparence parce que c'est en fait une demande publique et qu'il faut avoir des administrations beaucoup plus efficaces et qui permet un accès meilleur pour les données. En plus, l'Union européenne travaille depuis la fin des années 80 et pour l'ouverture des données publiques. En fait, la commissaire Nelly Kroes, elle a dit que les données sont les nouvelles or, les nouveaux pétrole du 20e siècle. Alors, il faut travailler pour ça parce que en plus, l'ouverture des données ouvertes aide beaucoup à faire augmenter l'économie et aussi pour la création d'emplois. Parce que toutes les personnes qui travaillent maintenant dans les entreprises de réutilisation d'informations, ce sont des nouveaux postes qui n'existaient pas avant l'ouverture des données ouvertes. En plus, dans l'agenda numérique, dans l'agenda digital de l'Union européenne, il y a une action, l'action 3, qui travaille concrètement pour l'ouverture des données publiques pour son réutilisation. Et en plus, dans les domaines internationaux, on peut dire qu'il y a deux pays qui travaillent, qui ont travaillé beaucoup, beaucoup tout au début pour l'ouverture des données ouvertes. Ça a été les États-Unis et aussi les Royaumes-Unis. Ils ont travaillé d'une manière parallèle, même si à la fin ils avaient un bout différent, parce que pour les États-Unis, le plus important c'était ouvrir la quantité les plus nombreuses de données. Et par contre, dans les Royaumes-Unis, ils voulaient plutôt d'ouvrir des données de qualité. Il faut les données de qualité avant d'ouvrir tous les données qu'il y a l'administration. En plus, dans le cas des Royaumes-Unis, la personne qui a conseillé au gouvernement sur la politique d'ouverture des données publiques a été Tim Berners-Lee, qui a été le créateur de la Web. Dans les règlements de l'Union européenne aussi, il y a une directive très importante que tous les États membres, comme la France et l'Espagne, ils ont dû adopter. Ça a été la directive approuvée en 2003 concernant à la réutilisation d'informations du secteur public, qui a été révisée 10 ans après, en 2013, et que par rapport, par exemple, à les institutions culturelles comme les bibliothèques, les musées, les archives, suppose une transformation. Ici, on peut voir que, par exemple, dans la directive 2003, ces normes ne s'appliquaient pas aux documents détenus par des établissements d'enseignement ou par des archives, bibliothèques, des instituts de recherche, même pas dans des établissements culturels. Par contre, 10 ans après, l'Union européenne s'est rendue compte de la valeur qu'il y a les données qui ont les bibliothèques et l'institution d'enseignement et culturel pour la société en général, et elle a introduit ou il a amplié le champ d'application de la directive aussi aux bibliothèques, bibliothèques universitaires, musées et des archives. Et en plus, exactement dans la directive, on dit que les bibliothèques, musées et archives détiennent en quantité importante de précieuses ressources d'information du secteur public, notamment depuis que les projets de numérisation ont multiplié la quantité de matériel numérique relevant du domaine public. C'est-à-dire, pour nous, dans le domaine de l'information et la documentation, la directive de 2013 change beaucoup par rapport à l'ouverture des données publiques. En plus, dans les directives de 2003, ils disent quelles sont les caractéristiques ou les principes qu'il doit respecter par rapport à l'ouverture des données publiques. Par exemple, par rapport au format disponible, on a déjà dit qu'il doit être dans des formats ouverts, standardisés, et aussi dans les principes de tarification, On dit toujours que, en principe, la disposition des données ouvertes doit être libre, doit être gratuite, parce que ce sont des informations qu'il a été déjà payées pour des fonds publics, et des différentes dispositions pratiques dans lesquelles il parle de la création des plateformes ou des portails où on peut publier les données ouvertes, parce que c'est très important de créer un outil documentaire pour pouvoir accéder et pouvoir récupérer après les données qui ont été ouvertes. C'est-à-dire, avec cette nouvelle philosophie, il y a un changement. On peut parler déjà des sociétés de données, pas exactement des sociétés de l'information, mais des sociétés de données, c'est-à-dire on peut avancer un peu. Et comme ça, il y a un nouveau outil documentaire qui va être ajouté aux des outils documentaires qui existaient déjà, comme sont les portails ou les plateformes de données ouvertes, qui permettent non seulement de consulter des documents complets, mais aussi des données concrètes. Par rapport au portail des données ouvertes, on trouve toujours qu'il y a trois instruments qui sont très importants. Et même si le portail Open Data répond, on va dire, à la politique des données ouvertes, on a toujours un outil très important, que c'est les catalogues des données. C'est l'instrument qu'on va utiliser pour consulter les différents documents en différents formats. Ça, c'est un instrument, on va dire, qui répond à la transparence, à la politique de transparence et à la politique d'accès à l'information. Mais on trouve aussi dans les portails les registres d'applications qui sont créés par des différents réutilisateurs. Et ça répond toujours à la politique de réutilisation, mais aussi à la politique d'innovation et à la politique d'emploi et d'économie numérique. Et à la fin, on trouve un petit espace, parce qu'en fait, c'est toujours le petit coin du portail, que c'est l'espace de participation citoyenne, qui répond au troisième pilier de Barack Obama, qui c'était la collaboration. Maintenant, je vais parler en concret du portail des données ouvertes. On va voir qu'est-ce que c'est et quelle est la structure que nous proposons qu'il doit voir tous les portails des données ouvertes par rapport à l'observation que nous avons faite des portails qui existent déjà, surtout dans les domaines publics. Tout d'abord, on peut dire que les portails des données ouvertes répondent à deux objectifs différents. D'un côté, c'est un outil numérique où les citoyens peuvent trouver l'information qu'il veut en format ouvert, c'est-à-dire il va trouver les données qui sont produites par les organismes publics. De l'autre côté, du côté de l'organisme public, c'est un outil qui permet de publier l'information qu'il a pour travailler dans la transparence, on va dire. En fait, il y a, je on peut dire qu'il y a déjà 8-10 ans qu'ils ont commencé à avoir des portails de données ouvertes, mais même aujourd'hui il n'y a pas un modèle unique de portail. Ça dépend du pays et ça dépend aussi de l'organisme responsable, c'est-à-dire on ne peut pas trouver un modèle structuré commun pour tous les pays ou pour tous les organismes. Et en plus, les formes et les options de recherche sont semblables. Les moteurs de recherche sont pareils dans tous les portails, mais la façon dont les résultats sont affichés diverge selon surtout les types d'informations que nous pouvons récupérer. Et c'est différent aussi, ça dépend de chaque portail, la couverture des données et les structures que les données ont aussi. Et les conditions d'accès et réutilisation des données figurent dans les licences. La licence la plus utilisée, c'est la licence Creative Commons, qui dit quelles sont les conditions pour utiliser les données ouvertes. Pour le moment, on peut trouver 2600 portails de données ouvertes dans le monde. Il n'y a pas un registre officiel, mais il y a quelques organisations qui essayent d'avoir un registre. Et dans ces cadres, nous pouvons trouver des portails ouverts du secteur public, des universités, et aussi on peut trouver des portails ouverts, des portails de données ouvertes des bibliothèques. Il y a aussi des rankings, des classements des portails par rapport au type d'informations qu'ils offrent ou les moyens qu'il a ouvert les données. Comme ça, on peut voir que par exemple, France est dans les troisième positions dans les rankings de 2016. Alors, c'est très bien situé par rapport aux données ouvertes, même si les États-Unis occupent les 10e position. Là, on a aussi les résultats par rapport à la France. Elle a beaucoup de matières dans lesquelles les données sont déjà ouvertes. On peut voir dans la troisième colonne les pourcentages de données qui sont ouvertes, par exemple sur les gouvernements, les fonds de gouvernement, il est ouvert les 100%. Et comme je vous ai déjà dit, toute la politique des données ouvertes, on peut la situer dans le cadre du Digital Single Market de l'Union européenne. Et c'est là où l'Union européenne a dit qu'il faut créer des instruments, des outils qui permettent l'accès et la récupération des données ouvertes, comme dans les bibliothèques, nous avons les catalogues pour consulter la collection. Et en fait, dans le domaine de l'Europe, nous avons des portails dans ce moment-là. C'est un peu compliqué, mais c'est bon parce que l'un complète l'autre. Et tout d'abord, le premier, c'est en fait les portails de données ouvertes des institutions européennes. C'est là où nous pouvons trouver les données des institutions. Et l'autre, c'est un portail de l'Union européenne qui permet de consulter les données ouvertes des différents organismes publics des États membres. D'accord? Quelle est la structure que, à notre avis, doivent avoir les portails données ouvertes? Bon, on a toujours quelques parts différenciées. On a toujours une première part, une partie principale. Et c'est la présentation toujours des portails, c'est-à-dire il nous dit quelles sont les données que nous pouvons trouver dans ces portails. Mais en plus, suivant, il nous raconte à nouveau chaque fois qu'est-ce que c'est l'open data, qu'est-ce que c'est la réutilisation, quels sont les formats où nous pouvons trouver les données ouvertes. Et en plus, il fait une description du portail. Il y a aussi des questions qui posent de manière fréquente les citoyens ou les usagers. En plus, on a les catalogues de données. Là, dans les catalogues, nous avons toujours un moteur de recherche. C'est une espèce de catalogue, de base de données. Et là, nous pouvons trouver des différences, mais c'est vraiment comme une base de données. En plus, nous trouvons des différents filtres pour sélectionner les critères de recherche que nous voulons utiliser pour récupérer les données. Et en plus, normalement, ces portails nous offrent les données les plus utilisées, les plus consultées ou les plus récentes. D'un autre côté, nous avons les registres d'applications où les utilisateurs mettent en commun les produits qu'ils ont créés à partir des données ouvertes. Là, on a aussi un moteur de recherche pour trouver les applications avec des filtres et aussi les apps les plus consultées ou les plus récentes. Il y a un petit coin, que c'est le coin de participation citoyen, où il y a presque dans tous les cas un petit formulaire pour que les citoyens demandent ou disent quels sont les jets de données qu'ils veulent avoir, qu'ils voulaient qu'ils soient ouvertes. En plus, ils donnent la possibilité de publier des données, s'ils sont des données qui sont de qualité et qui doivent être évaluées avant. Et en plus, il y a toujours un espace pour les commentaires, c'est-à-dire une espèce de blog, de forum, de chat, etc., pour que les citoyens puissent parler entre eux sur l'ouverture des données qu'il y a dans les portails. Et en plus, il y a des autres informations qui complètent les portails, que ce sont des études, des rapports par rapport à l'open data, des concours, des manifestations et un des autres portails. Parfois, on permet l'accès des autres portails. Là, j'ai mis quelques exemples des différents portails. Par exemple, ça, c'est les portails de la Belgique, les portails du gouvernement belge. Là, on peut voir comment suivre les structures que nous avons montrées avant. Ici, on a les portails de l'Université d'Alicante en Espagne. Et dans le domaine des universitaires, ça commence à avoir quelques portails de données ouvertes, mais en fait, par exemple, à Salamanca, en Espagne, dans ces moments-là, ils comptent seulement sur 10 portails. Alors, ça commence, mais ça commence d'une manière lente. Ici, on a aussi les deux portails en plus universitaires, c'est l'Université de l'Extrémadura et l'Université de Granada. Mais en plus, on a parlé qu'il y a aussi des données ouvertes culturelles. Et je crois que tout le monde connaît les projets européens. C'est un vrai, un grand projet européen à niveau culturel qui permet la liaison en plus des différentes données culturelles. Mais aussi en Espagne, nous savons que la Bibliothèque nationale a commencé à lier les données avec des autres institutions comme par, et en plus avec des autres catalogues comme par exemple les BIAF. Quelles données peuvent être libérées sur les catalogues? Bon, pour savoir, il faut se poser les questions que nous avons là, surtout quelles sont les données les plus demandées. Quelles sont les données, par exemple, qui ils vont pas en contre, on va dire, ils vont pas attenter contre les données personnelles ou la sécurité nationale. C'est-à-dire, il faut savoir, il faut sélectionner quelles sont les données les plus intéressantes pour la citoyenneté et aussi pour les réutilisateurs. Et là, c'est vrai que nous, les professionnels de l'information et de la documentation, nous avons un rôle très important à développer là, même si on parle de données dans les secteurs publics. Et en même temps, il faut tenir compte de quelques conseils. Par exemple, il faut ouvrir jeu de données petites. Il faut commencer pour des jeux de données petits, simples et aussi rapidement que possible. Il faut avoir une attitude de compromis avec les utilisateurs et les réutilisateurs de l'information fournie en détectant leurs besoins d'information. Si nous commençons à ouvrir nos données, il faut continuer peu à peu. On ne peut pas ouvrir et après s'arrêter. Et en plus, il faut identifier les éventuelles craintes ou préjugés initiales relatifs à l'ouverture des données. En fait, il y a beaucoup d'administrations publiques qui n'ouvrent pas leurs données parce que les responsables ont crainte de ce qu'on peut faire avec les données. Et en même temps, il y a quelques étapes à suivre pour l'ouverture des données. Il faut sélectionner les groupes de données à ouvrir et modifier les formats du fichier à un format ouvert. Je vous ai déjà parlé de la différence entre PDF et Excel. Appliquer une licence ouverte indiquant les conditions dans lesquelles on peut utiliser l'information, les données. Inclure des métadonnées. Il faut, c'est très important d'avoir une bonne description, appliquer vraiment bien les métadonnées. Et là, et les professionnels de l'information et de la documentation, nous avons encore un rôle très important, je trouve. Et il faut créer un paquet, les fichiers dataset avec les fichiers de licence, avec les métadonnées, et assigner un URI qui identifie l'objet dataset. Et bon, ça peut être un peu petit, on peut peut-être voir bien, mais c'est le catalogue des données ouvertes de la France, du gouvernement français, et aussi le catalogue des données ouvertes. Et actuellement, il y a 25 135 jeux de données qui offrent ces catalogues. La recherche des catalogues, on l'a fait en suivant différents critères. Ça peut être par exemple des critères thématiques, par exemple, ou par exemple avec des formats. Ça dépend, on peut filtrer l'information. Là, nous avons un exemple de registre. Par exemple, c'est le registre sur les produits alimentaires, ingrédients, nutrition et labels. Et là, nous avons toujours un petit, après les titres, nous avons toujours un petit description et en plus les différents formats dans lesquels nous pouvons consulter l'information. En plus, nous savons quelles sont les licences sur lesquelles nous pouvons réutiliser l'information et quelques tas qui nous permet de récupérer par matière cette information-là. Dans les portails de l'Union européenne, on a à peu près les mêmes offres. Nous avons les moteurs de recherche. Après, nous avons les jeux de données qui ont été les plus vus, les plus demandés. On a aussi classifié les données par des différents sujets, des thèmes, et quels sont aussi les termes les plus populaires, c'est-à-dire les tares les plus populaires. Et en plus d'ici, quelqu'un qui veut peut suggérer un nouveau jeu de données. Là, vous avez un exemple aussi des registres d'un jeu de données sur les portails des données ouvertes européennes. J'ai déjà dit que quand nous cherchons des données sur ces portails, on trouve qu'il y a quelques filtres, comme dans une base de données normale, que nous pouvons utiliser pour sélectionner l'information ou les jets de données que nous voulons récupérer. Les filtres les plus communs, ce sont l'organisme responsable, les formats de données, les types de données, la licence, la couverture géographique, la couverture chronologique, l'étape ou même les classements thématiques. Là, nous pouvons voir quels sont les différents filtres qu'ils utilisent dans les portails de données ouvertes, dans les catalogues de données ouvertes de l'Union européenne. Comme ça, et nous pouvons voir par exemple le format, la couverture géographique, les mots-clés, mais aussi on utilise toujours dans les domaines de l'Union européenne les thésauros Eurovoc, la classification et les classements Eurovoc. Là, ce sont les filtres qu'utilisent les catalogues de données ouvertes du gouvernement français, par exemple, par les organisations responsables des données, et les badges, les formats, et la couverture et géographique, temporelle, etc. Et là, il y a un exemple de catalogue de données ouvertes du gouvernement des États-Unis où on peut utiliser aussi la localisation comme filtre pour sélectionner ou comme un critère pour sélectionner les données ouvertes que nous voulons consulter. Là, je vous ai déjà dit que c'est très important d'avoir une bonne description des données. C'est pour ça que les métadonnées dans un registre, c'est très important. Et j'ai signalé en rouge quelles sont les métadonnées qui utilisent souvent ces portails-là. C'est-à-dire, on a les titres, mais après on a l'éditeur, la description, les différents domaines, et les différents formats, l'URI, la date de modification, la date d'incorporation sur les catalogues, etc. Les métadonnées, c'est très important. Par exemple, en Espagne, il y a un règlement qui dit quels sont les métadonnées qu'il doit avoir les portails et aussi les catalogues. Et comme ça, toutes les administrations utilisent les mêmes métadonnées pour ça. Mais en plus, dans le cadre du portail européen des données ouvertes, chaque mois, ils font un rapport sur la qualité des métadonnées des différents portails européens. Comme ça, nous pouvons voir les statistiques de distribution, mais aussi les statistiques concernant les jets de données conformés. Et nous pouvons voir quelle est la qualité mensuellement de ces métadonnées qu'on utilise. Mais aussi, c'est très important d'avoir et créer des relations sémantiques entre des différentes entités que nous avons dans notre catalogue, dans les données ouvertes que nous avons dans les catalogues. Là, c'est l'ontologie, les modèles sémantiques d'ontologie qu'utilise l'université, par exemple, d'Extremadura, en Espagne, pour établir les relations qui existent entre les différentes entités universitaires. Comme ça, on peut lier en plus les différentes données. Il faut créer tous les maps de sémantique. Et là, c'est un autre domaine qui est propre des professionnels de l'information et la documentation, mais on peut travailler aussi en relation avec des informaticiens. Je crois qu'on peut faire ce travail aussi en collaboration. Et on a toujours dit qu'en fait, l'ouverture des données ouvertes, c'est fait pour la réutilisation de l'information. Ça, c'est vraiment le but principal. Et au moins, c'est comme ça qu'ils ont pensé les gouvernements à la fin, parce que, comme j'ai déjà dit, ça croît d'emploi et ça fait augmenter l'économie, on va dire. En fait, ce sont des données de l'Union européenne, qui a donné de l'Union européenne. Et il y a des 325 billions d'euros qui sont créés directement pour la réutilisation d'informations et qu'ils prévoient, ils vont avoir entre 2016 et 2020 dans l'Union européenne des 28 pays. C'est-à-dire que ça bouche beaucoup d'argent, la réutilisation. La France, comme je vous ai déjà dit, est dans les troisièmes positions, dans les podiums des données ouvertes pour l'instant. Et il y a beaucoup d'initiatives dans les domaines publics, il y a dans les secteurs publics, dans les institutions universitaires, dans des bibliothèques, par exemple. Il y a aussi des bibliothèques qui sont commencées. Ça s'est fait, et je crois que ça a été la semaine dernière, que la Bibliothèque nationale de l'Espagne a ouvert un espace dans son page web pour parler de la réutilisation qui est en train de se faire des données ouvertes, des données qui sont ouvertes. Ce sont des applications, ce sont des produits qui sont créés à partir de l'ouverture des données de la Bibliothèque nationale. C'est-à-dire que dans les institutions culturelles, nous trouvons aussi déjà des exemples de réutilisation de l'information. Là, c'est un autre exemple qui a été créé récemment ici en France, qui a été créé à partir des données ouvertes par rapport à la... élection présidentielle qui vient d'être il y a quelques semaines ici en France. Et comme ça, c'est un map et on peut voir quels sont les votes qui sont reçus les différents candidats. Ici, un autre exemple de réutilisation d'informations, c'est il y a toujours des instruments géoréférentiels, géographiques, des maps, qui permet, par exemple, dans ces cas-là, situer les pharmacies en garde. Ici, par exemple, dans le Royaume-Uni, et c'est une application que tu peux utiliser dans ton smartphone pour trouver la pharmacie. Ici, c'est une autre application pour savoir quels sont les votes et sur quel sujet chaque parlementaire, chaque député a voté et voter dans le Parlement européen, par exemple. Et il y a une autre application en Espagne qui trouve Et à partir de ton ubication, ton localisation, la bibliothèque la plus proche. Par exemple, il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, il y a ici une autre pour trouver la bibliothèque publique la plus proche où tu es. Par exemple, tu peux te décharger quelques applications ou dans le domaine de la criminologie. Il y a aussi quelques applications qui nous permettent de connaître quels sont les crimes qui sont passés dans un point géographique concret, dans une rue, dans un boulevard, etc. À la fin, je mets quelques mots sur la participation citoyenne. J'ai déjà dit que les portails Open Data permet aux citoyens aussi de suggérer quelques données ouvertes, quels sont les jets des données qu'ils voudraient qu'ils soient ouvertes. Comme ça, on peut les voir aussi dans les portails du gouvernement français. Il faut toujours remplir un formulaire et après, normalement, il y a, comme ici, il y a quelques questions qu'il faut répondre, mais surtout les plus importants, je ne sais pas pourquoi ça passait ça, mais par exemple ici, dans les espaces de participation citoyenne du portail du Royaume-Uni, on voit que ce qu'on demande aux citoyens, c'est leur dire quel est l'intérêt économique et stratégique qui peut être l'ouverture de ces données qu'il est suggéré par les citoyens, par exemple. C'est-à-dire, on pense toujours dans des termes économiques. Ici, il y a des autres exemples, par exemple, le portail des données ouvertes de Kenya ou le portail des données ouvertes de Colombia. Toujours, on a des formulaires. C'est pas, on peut dire que cet espace citoyen est de plus en plus présent dans cette portail-là, mais on n'est pas dans tous les portails. On ne peut pas les trouver dans tous les portails. Bon, à la fin, je voudrais vous dire qu'il y a un manque de consensus ou de lignes directrices communes sur les ensembles de données que les administrations doivent publier. Il faut faire attention à la description des données et avoir une règle de catalogation unique des jeux de données, utiliser des formats standards avec des structures similaires, surtout pour l'interopérabilité des données aussi, et la création de taxonomies, par exemple des noms liés aux des organismes publics. Il est insuffisant des informations fournies sous les formes de publication et la diffusion des données. On voit aussi une absence de lignes directrices pour l'ouverture des données des entreprises privées. On parle toujours des secteurs publics, des institutions publiques, mais en Espagne, par exemple, il y a un règlement qui oblige aux entreprises privées qui ont un contrat avec l'administration publique d'ouvrir aussi ces données. Il faut les savoir et les ouvrir. Et il faut améliorer l'existence des outils pour la participation des citoyens dans des portails de données ouvertes. Il faut travailler plutôt au plus sur la participation et la collaboration citoyenne. Et la clarté et la compréhensibilité sont deux éléments clés pour répondre aussi à l'information dans l'intérêt de la transparence. Par rapport aux données dans les institutions culturelles, surtout sur les bibliothèques, je crois que c'est une opportunité très importante pour les bibliothèques. En plus, je trouve que c'est, on va dire, facile de faire parce que, comme on dit, ce sont des institutions qui travaillent avec des informations très structurées, qui décrit très bien l'information et alors qu'il doit profiter de toute l'information qu'il a pour que ça puisse peuvent être réutilisés. Comme ça, les bibliothèques en tant que fournisseurs de contenu ont un grand potentiel, ça c'est sûr. L'origine de cette forteresse est évidemment les types d'informations, des références bibliographiques qui est générée par des règlements codifiés qui structurent déjà l'information. Et un autre, il travaille avec vocabulaire contrôlé et standard et le fichier d'autorité qui va faire beaucoup plus facile l'ouverture des données dans les institutions culturelles. De toute façon, le domaine des données ouvertes, c'est un domaine multidisciplinaire. Il faut tous travailler là. Et par exemple, dans le cas des bibliothèques, il faut que les directeurs des bibliothèques doivent identifier les jeux candidats, exposer immédiatement les données sous forme de données liées. Mais aussi, les organismes de normalisation de la bibliothèque doivent accroître la participation des bibliothèques à la normalisation de la web sémantique. Les ingénieurs de données et des systèmes doivent concevoir des services améliorés en fonction des possibilités de données liées. Et finalement, les bibliothécaires, les archivistes doivent appliquer les traitements de l'expérience et la bibliothèque préservation à long terme des ensembles de données et des données liées. Et comme ça, j'ai fini mon présentation. J'espère que ça aurait été intéressant pour vous et merci de votre attention.
Comme ça, donc c'est bien parce que on donne accès aux citoyens à un certain nombre de données, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une barrière, c'est-à-dire est-ce qu'il ne faut pas des connaissances techniques pour s'emparer de toutes ces données? Est-ce qu'un citoyen lambda peut vraiment s'approprier un ensemble de données qui lui est fourni comme ça de manière brute technique?
Ouais, c'est la différence que j'ai parlé entre les États-Unis et les Royaumes-Unis. Je crois parfois que c'est une espèce de mode, on va dire. Et on a l'intérêt maintenant d'ouvrir toutes les données, de donner l'accès à toute l'information, mais il faut contrôler les données que nous ouvrons. Parce qu'en fait, pas toutes les données sont intéressantes, on peut être réutilisées et peut-être on ne va pas être très bien utilisées. En fait, on parle déjà du marché clandestin des données aussi, parce qu'on ne sait pas quelle est l'utilisation qu'on peut faire de ces données-là. Mais par rapport aux connaissances techniques pour travailler sur ces données-là, normalement, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'en fait, on parle de, pour avoir dans un modèle courant, d'Excel. Excel, c'est un format qui me permet d'utiliser. Et on parlait de raw data, je sais pas, en brut, je ne sais pas si on dit ainsi comme ça en français, des données en brut et que je puisse utiliser librement. Mais il n'y a pas vraiment, il ne faut pas vraiment des connaissances techniques haut niveau.
Comment empêcher un phénomène d'enclosure? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut empêcher le fait que des sociétés privées revendent des données qui, à l'origine, sont publiques? Et donc, du coup, est-ce qu'il n'y a pas une perversion de la philosophie initiale?
Normalement, c'est vrai qu'on ne peut pas contrôler qu'est-ce qu'il peut faire avec les données, mais on a dit que les données sont publiées sur les licences Creative Commons qui disent déjà quelles sont les conditions pour la réutilisation. C'est toujours, c'est vrai que c'est l'Agence de protection des données nationale, dans ce cas, normalement, qui doit surveiller pour que l'utilisation soit faite dans le bon chemin, on va dire. Mais vraiment, on ne peut pas savoir quelle est l'utilisation que les entreprises privées vont faire des données. Ce qu'ils font normalement, c'est prendre les données, les ajouter une valeur pour après revendre les applications qu'ils font comme ça. Sinon, ça n'aura pas aucune valeur parce qu'on peut tous trouver les données qui donnent l'administration publique. C'est toujours la valeur qui ajoute cette entreprise réutilisateur qui a vraiment où se trouve la richesse économique, pour dire, je ne sais pas comment dire exactement.
Donc, vous êtes enseignante. Comment est-ce que vous enseignez justement cette philosophie des données ouvertes à vos étudiants? Est-ce que vous parlez plutôt du point de vue des enjeux? Est-ce que vous abordez plutôt ça sous un point de vue technique? Quel est l'angle que vous adoptez et qu'est-ce que vous voulez leur faire passer à vos enseignants, à vos étudiants?
Je parle à mes étudiants des données ouvertes dans le cadre d'une matière qui s'appelle transparence et accès à l'information et qui enseigne avec deux collègues à Salamanca. Alors, on commence toujours à parler de transparence. Ce n'est pas du tout le même. En fait, on a des règlements différents. En Espagne, on a des règlements de transparence, mais après, on a des règlements de données ouvertes. Mais c'est vrai que dans les règlements de transparence, on parle un petit peu des données ouvertes, de réutilisation de l'information. Mais en fait, données ouvertes, c'est toujours ensemble avec la réutilisation de l'information. Et transparence, c'est plutôt ensemble avec l'accès à l'information. Alors, mes collègues parlent avant de transparence, d'accès à l'information. Et après, moi, je entre la dernière dans les cours et je parle sur les ouverture de l'information et la réutilisation de cette information aussi. Je le parle surtout des points de vue de la législation, de la normative et surtout des outils documentaires que nous avons déjà et que nous pouvons, en tant que professionnels de l'information et de la documentation, développer pour récupérer ces types d'informations nouvelles, on va dire, et que ce sont les données ouvertes.
Et du coup, est-ce qu'il y a des étudiants qui sont en stage sur ce genre de thématique?
En stage, pour le moment, on n'a pas des étudiants qui fassent des ouvertures de données et tout ça, parce que les stages qu'ils font, les étudiants de la licence en information et documentation, et c'est surtout dans les domaines des bibliothèques universitaires et des archives. Et dans les bibliothèques universitaires, il n'y a pas d'initiative d'ouverture des données. Pas pour l'instant. En Espagne, surtout, c'est la Bibliothèque nationale, comme je vous ai déjà dit, et aussi la Bibliothèque Miguel de Cervantes. C'est une bibliothèque numérique. Alors, c'est vrai que dans la réalité, on va dire, on ne trouve pas toujours des initiatives de données ouvertes. Par exemple, à Salamanca, on n'a pas encore un portail de données ouvertes. Nous avons un portail de transparence, mais pas un portail de données ouvertes. Mais je crois que dans très peu de temps, on va les créer.
Est-ce que c'est réservé à des gros établissements ou est-ce que aussi les petits établissements peuvent ouvrir leurs données?
Pour l'instant, ce sont les grands établissements qui ont commencé à ouvrir les données. Je vous parle des bibliothèques nationales, je vous parle des gouvernements français, espagnols. C'est vrai qu'il y a aussi les gouvernements territoriels, des communautés autonomes, par exemple en Espagne, les communautés autonomes aussi. Mais il y a aussi des mairies de quelques villes qui sont aussi un projet de données ouvertes. Mais maintenant, je ne me rends pas compte des petites initiatives dans le domaine des données ouvertes. Non.
Alors, une dernière remarque, ce que je trouve intéressant quand on parle de données ouvertes culturelles, c'est qu'il y a, à mon sens, deux types de données ouvertes. Le premier type de données ouvertes, c'est des données sur, mettons pour une bibliothèque, de fonctionnement, combien est-ce qu'il y a d'usagers, quelles sont les horaires d'ouverture, et puis à partir de là, on peut retravailler et créer un outil pour montrer, je ne sais pas, la fréquentation de la bibliothèque. Mm-hmm. Là, on est plutôt sur des données méta, et l'autre type de données qu'on peut retrouver, c'est des données de contenu, pour le coup, puisque la bibliothèque, vous disiez tout à l'heure, elle est fournisseuse de contenu, elle a elle-même plein de données, mm-hmm. et elle peut retravailler pour proposer, je ne sais pas, des livres numériques interactifs qui vont retravailler comme ça. C'est ce qu'avait fait la bibliothèque de Rouen, par exemple, en refaisant tout un site à partir de données comme ça sur où étaient allés les personnages de tel roman, etc. Et donc, c'était vraiment intéressant d'arriver à suivre ces informations.
Ça, on l'appelle les données liées, les LinkedIn Open Data. C'est un projet vraiment intéressant dans les domaines bibliothécaires parce que ça nous permet de créer tout un univers, on va dire, autour un auteur, un ouvre. Et ça, c'est vraiment enrichissant, enrichissant pour pour la collection des bibliothèques. De l'autre côté, par exemple, sur les données que vous parlez, de quels sont les nombres d'usagers qu'il y a à la bibliothèque, et ça serait plutôt, on va dire, des données administratives, mais qui sont très, très intéressants aussi, parce qu'en fait, presque toutes les bibliothèques font au moins une fois par an les rapports statistiques sur les nombres d'usagers, et l'utilisation de la collection et tout ça. Mais je trouve que surtout c'est très intéressant pour le monde des bibliothécaires, les premières, les pouvoir lier toute l'information que cette bibliothèque a et que c'est vraiment un potentiel. Ouais.
Merci.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci encore de votre venue.